fusils, armes automatiques et engins de guerre. Les champs de bataille étaient jonchés de cadavres de rangers morts en mission et de braconniers anonymes manipulés par des trafiquants intouchables. John avait étudié le sujet. Les prélèvements d'animaux sauvages se déroulaient surtout ici, en Afrique, avant que le produit, vivant ou mort, soit expédié vers une clientèle majoritairement asiatique qui s'arrachait ses trésors. On les retrouvait dans des sacs de cacao ou des chargements de bois, regroupés dans les ports sous de fausses appellations, plastique à recycler, bœuf congelé, pétales de rose, mélangés à d'autres viandes ou poissons légaux. Le butin voyageait par container, bateau de pêche ou simple mule, qui rivalisait d'ingéniosité pour passer entre les mailles des filets, les contrevenants s'en sortant généralement avec une amende dérisoire. Un trafic mondial, dont seuls 10% des mouvements étaient saisis. Les combines allaient du scanner débranché par des douaniers corrompus avant l'embarquement du passeur à la complicité des agences ministérielles, chefs de police, intermédiaires bureaucrates, rangers ou villageois locaux. On spéculait sur les espèces les plus menacées, et quand l'imminence d'une extinction provoquait l'envolée des cours de la bourse faunique, on s'acharnait. Ivoire, cornes, peau, écailles de pangolin, dents, griffes, testicules, tout se vendait sur les marchés parallèles, alimenté par des tueurs professionnels ayant combattu dans différents conflits et qui n'avaient pas peur des brigades anti-braconnage. Ces groupes armés provoquaient la dislocation des communautés locales et l'instabilité politique, et finançaient le terrorisme. Boko Haram et Al-Qaïda participaient au trafic, précipitant l'extinction en cours. Une extinction exponentielle, comme l'avaient subi les peuplades qui considéraient la Terre comme leur mère nourricière, privée de l'imaginaire qui fondait leur entité, exactement comme les animaux dans un zoo. Voilà l'avenir que l'homme moderne réservait aux bêtes sauvages. Une prison. Un cachot avec des barreaux de fer dans la tête, qui leur ferait perdre jusqu'à l'idée même de liberté. La haine parfois le submergeait. Il avait créé Wild Bunch comme un camp de rescapés, et à 54 ans, John estimait n'avoir plus rien à offrir à ses semblables. L'amour n'était qu'un mirage, une simple dispersion de l'âme. L'idée de fonder une famille ne l'avait jamais intéressé, encore moins aujourd'hui, alors qu'il avait passé l'âge de perpétuer l'espèce. Il n'avait jamais voulu d'une femme blanche à ses côtés, sûr qu'elle demanderait des comptes à la moralité et au chagrin qu'il avait tué il y a longtemps. John s'imaginait avoir vu assez de gens sur Terre, fidèles à eux-mêmes, vils ou magnifiques, veuls ou volontaires, toujours désespérant. Il préférait rester avec ses animaux. Au moins eux se dévoraient pour une bonne raison. Quant à la seule femme qui avait partagé sa vie, Aya, elle était morte trop tôt et il n'avait pas même une photo d'elle. Que cette tombe, sans même une plaque, où on avait déposé le corps de la jeune San à même la terre. Un rite animiste qui, en nourrissant les vers et les insectes, participait à la régénérescence de toutes les vies. John ne s'était pas rendu sur la sépulture depuis des mois. Le retour de Ouya dans cette histoire ranimait le souvenir d'Aya sans doute, ou le pressentiment d'heures sombres à venir. Il s'accroupit devant le carré de terre où les restes de sa compagne s'étaient dispersés et déposa un bouquet de petites fleurs d'oranger. À bientôt. Encon sortait rarement de Wild Bunch, sauf pour l'intendance et pour aller chercher quelques pièces de mécanique qu'on ne pouvait livrer sur place. L'ami de John gambergeait au volant. Depuis combien d'années n'avait-il pas vu son frère? La dernière fois, à sa sortie de prison, Ouya réparait des pneus le long de la B8, une échoppe minable à l'image de sa déchéance. Un drame humain en soi. Comme si Ouya avait poussé le travers et n'en finissait plus de perdre ses racines. Le décès précoce de leurs parents n'était pas une excuse. La communauté avait su rester soudée jusqu'à l'arrivée de John. Ni l'apartheid, qui empêchait la population namibienne de se développer. Khoi et San vivaient la ségrégation depuis l'invasion millénaire des Bantous. La culpabilité après la mort tragique de leur petite sœur avait contribué à précipiter Ouya dans l'abîme, où il se complaisait depuis.